Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h. Biotine, l'émission d'actualité scientifique avec Jean-Noël. Je suis heureux de vous retrouver. Vous nous écoutez sur graphite.net, sur internet bien sûr, en direct ou en différé. Et le 94.9 sur la bande FM pour ceux qui nous écoutent dans l'Oise, l'Aisne, la Somme. Tous les samedis entre 12h et 13h et tous les mardis entre 10h et 11h pour la rediffusion. Biotine vous permet de vous informer de l'actualité scientifique. Il faut dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été mentionnées dans les différents articles et des sites internet qui sont assez intéressants en fait pour pouvoir être informé de l'actualité scientifique, des sites qui sont bien faits, vulgarisés, il y a des revues également de vulgarisation scientifique et donc dans tout ça je puise un petit peu quelques articles pour un petit peu nous tenir informés de ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier. Car on voit que la technologie, la médecine, la science avancent et ça nous permet d'un petit peu de savoir où on en est, de faire le point également. Et là, on va quand même parler pas mal de médecine et ça nous permet aussi un petit peu d'anticiper ce qui attend notre quotidien dans quelques années. C'est très souvent dans cette émission qu'on a un peu appris ce qui nous attendait, les technologies modernes qui nous entourent. Eh bien, on les évoquait il y a déjà une bonne dizaine d'années dans cette émission. Bien évidemment, nous sommes le 5 mars. Au niveau de l'éphémérie, il n'y a pas grand chose, hein, faut être honnête. Le 5 mars 1943, il y a le vol inaugural du Gloster Meteor. C'est le premier avion à réaction militaire qui est mis en service par le Royaume-Uni en 1943 quand même. Et en 1982, la sonde spatiale Venera 14, elle se pose sur Vénus. C'est assez intéressant, en courant février, on avait aussi parlé de Vénus au niveau de l'éphémérie, c'est-à-dire dans ce qu'il se passait il y a quelques décennies déjà. Là, nous sommes en 1982. Il faut dire que Vénus, on n'en parle pas trop en ce moment. Là, on est quand même plutôt focalisé sur la Lune et sur Mars, bien évidemment. Mais Vénus, vous voyez, une sonde spatiale qui s'est posée sur Vénus en 1982, il y a déjà 40 ans quand même. Au niveau des décès, des naissances, commençons par celui qui est né un 5 mars en 1876. C'est Édouard Belin, ingénieur français. Il est l'inventeur de ce qu'on appelle le bélinographe. Hein, c'est un petit peu son nom qu'on a utilisé. C'est un système de transmission à distance des photographies en usage dans la presse des années 1930 et puis son remplacement par la transmission de fichiers numériques 50 ans plus tard. Et donc le bélinographe créé par Édouard Belin. Et il est donc né le 5 mars 1876. Le décès de l'architecte français Henri Gaudin, décédé l'année dernière le 5 mars 2021 à Paris. Il a notamment conçu le stade Charletti à Paris, l'école normale supérieure de Lyon et la restructuration du musée Guimet ou la rénovation aussi du musée Guimet. Il fut également professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Henri Gaudin est donc décédé le 5 mars 2021. C'était l'année dernière. Pas mal d'actualités, comme je vous le disais dans cette émission, avec pas mal de choses au niveau médical. Alors, je l'évoquais dans une émission de février que j'avais pas eu le temps encore de... Cette émission était tellement complète mi-février et les émissions se sont enchaînées. On n'a pas eu le temps d'évoquer cet article de Futura Science, qui est quand même assez fascinant parce que ça concerne les robots chirurgicaux. C'est pas complètement nouveau, hein. Il y a des nombreux modèles qui permettent déjà d'améliorer la précision des gestes et d'effectuer aussi des opérations à distance. On en a déjà parlé dans cette émission. Il y a déjà eu des articles qui ont évoqué cela il y a quelque temps. Mais jusqu'à présent, ces appareils, ils étaient quand même toujours guidés par l'homme. Il y a des chercheurs de l'université Johns Hopkins aux États-Unis qui ont voulu rendre les opérations entièrement automatisées. Ils ont mis au point un robot qui est capable d'effectuer une anastomose intestinale sans assistance humaine. C'est quand même assez extraordinaire. Et donc, dans un article publié courant février dans la revue Science Robotics, les chercheurs détaillent donc les améliorations qui ont été apportées à un robot qui s'appelle Star. Et il avait déjà réussi une chirurgie en 2016, mais avec une grande incision qui avait nécessité une intervention humaine. Et bien, ce nouveau modèle de Star a réussi à joindre deux parties de l'intestin dans une opération par un principe de colioscopie. Le robot a été équipé d'outils de suture spécialisés ainsi que d'un système d'endoscopie en 3D. Et ils ont utilisé l'apprentissage automatique pour essayer de créer une représentation en 3D des tissus à manipuler. Et l'opération chirurgicale a été menée. Elle a été menée avec succès sur des cochons, sans la moindre insistance d'un homme, d'un médecin, d'un chirurgien. Et donc Star a réalisé l'intervention sur 4 animaux et il a obtenu des résultats nettement meilleurs que ceux des humains réalisant la même intervention. C'est ce qu'indique Axel Krieger, qui est l'un des responsables de cette équipe de recherche. Selon donc ces chercheurs, de tels robots chirurgicaux pourront démocratiser l'accès à des opérations spécialisées tout en offrant des résultats plus uniformes et un meilleur bilan pour les patients. C'est quand même assez fascinant d'avoir ces robots qui vont pouvoir réaliser des opérations chirurgicales avec des résultats qui sont jugés significativement meilleurs que si c'était un vrai chirurgien. C'est quand même assez extraordinaire, je trouve, de voir cela. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un petit peu le futur qui est en train de se dessiner, une petite esquisse que l'on a. Mais il se peut que dans quelques années, eh bien, nous aurons des opérations chirurgicales avec des robots totalement autonomes. Comme ça, ça pourra peut-être résoudre le problème des lits, de cette saturation parfois au niveau des opérations chirurgicales. Eh bien, du coup, voilà, on a peut-être une solution, c'est les robots. C'est assez troublant. Faut quand même l'avouer, mais c'est d'un point de vue technologique totalement fascinant. Biotine tous les samedis, 12h, 13h pour l'actualité scientifique, mais également un peu de musique. On écoute Asian Dub Foundation. Listen. I'm on the front line, fighting for what's mine. Wasting no time, I can see it shine through the dust. Beaming into my mind, I fully trust that I'm on the right side is a must. Freedom for all, peace and love. For the big, for the small, we're on the same team. Can you hear the call? United we stand. If you're Muslim, you're a terrorist, a violent thug. If you're black, and if you're white, they say you're mentally ill. This was fucking real when I can't believe folks buy into that and let the media get away with that. For them to keep doing it over again. People now enemies that used to be friends. Let's not pretend that it doesn't affect us. Stop the panic, seeing a bearded man on a bus. That's what they done, you don't even know it. Telltale signs, you're starting to show it. Desensitized from the news of war. It doesn't seem to bother you anymore. Too busy trying to maintain the bills. Who cares who kills or how much blood spills? Yo, I'm on the front line, fighting for what's mine. Wasting no time, I can see it shine through the dust. Beaming into my mind, I fully trust that I'm on the right side is a must. Freedom for all, peace and love. For the big, for the small, we're on the same team. Can you hear the call? United we stand. You got affected directly. Your son just passed while serving in the army. Now you've got a million questions in your head. All of a sudden you're not wondering about the dead. Thinking about why this hate was spread. It starts to make sense why people can't forget. Scarf of bloodshed, an arm and a leg. One of the many Operation Cast Lead. Now you see people acting the way you used to. And if you say something, the hate is directed to you. Labels, stereotypes and everything that comes with it. You're either with it or against it. Disagreement means you're afraid you're not alone. The masses can feel it in the bones. Still got a chance to make it right. What you gotta do was refuse to fight. For them big corporations full of exploitation. While society's begging, they be shelling and the bellies be swelling. Whose story they be telling? Wake up, we're getting fed up again. Wasting no time, I can see it shine from the dust. Beaming into my mind, I fully trust that I'm on the right side, it's a must. Freedom for all, peace and love. For the big, for the small, we're on the same team. Can you hear the call? United we stand.
Pfff.
Frontline, c'était Asian Dub Foundation sur l'antenne de Graphite tous les samedis entre 12h et 13h et tous les mardis entre 10h et 11h. Graphite vous propose Biotil, l'émission d'actualité scientifique sur le 94.9 et sur aussi Internet avec le site internet graphite.net. Vous avez aussi la possibilité de suivre l'actualité de Graphite sur la page Facebook notamment, qui est quand même assez active et qui vous donne un petit peu toute l'actualité de votre radio préférée, bien évidemment. Au niveau de l'actualité scientifique et nécessairement plutôt ici médicale, il y a trois articles qui parlent de du tabac d'une façon générale, donc on va les évoquer. Alors je ne sais pas trop dans quel ordre, je vais commencer par celui-ci qui va concerner les enfants, et notamment ce qui est assez intéressant, entre guillemets si je peux dire, c'est l'idée que presque tous les enfants sont exposés au tabac, même dans les foyers non fumeurs. En fait, la cigarette, elle n'est pas dangereuse que pour les fumeurs, elle est aussi pour leur entourage, on le sait. La fumée secondaire, qui est celle que les fumeurs n'inhalent pas, est responsable de ce qu'on appelle le tabagisme passif, bien évidemment. Et des mois après que la cigarette est éteinte, eh bien, des traces de fumée perdurent sur les surfaces, sur les cheveux, sur les meubles. C'est ce qu'on appelle cette fois la fumée tertiaire. Il y a une étude menée par des chercheurs américains qui indique que ça a été mené sur 500 enfants de moins de 12 ans qui ont été testés, eh bien, on se rend compte que presque 97% d'entre eux ont des traces de nicotine sur les mains. C'est quand même assez étonnant, même s'ils vivent dans un foyer non fumeur. Alors plus précisément, c'est 97% des enfants exposés à la fumée ont des traces de nicotine sur les mains. Certains parents ont indiqué aux scientifiques qu'ils essayent de protéger leurs enfants de la cigarette, et malgré ces efforts, eh bien, il y a quand même des traces de nicotine sur les mains. Et c'est assez intéressant au niveau de voir une illustration de ce tabagisme tertiaire, de cette fumée tertiaire. Les enfants de 2 à 4 ans vivant dans une famille modeste de fumeurs ou qui fréquentent des fumeurs sont les plus exposés. Les effets, bien sûr, sur la santé des enfants de ces traces de nicotine sont très peu étudiés à ce jour. Effectivement, à ma connaissance, la première fois qu'on évoque ce sujet dans cette émission, avec leur tendance à porter les mains à la bouche, eh bien, les enfants pourraient ingérer des traces de nicotine ainsi que d'autres substances toxiques présentes dans la fumée tertiaire. Et pour réduire au maximum ce risque, eh bien, il est conseillé de ne pas fumer dans un espace clos, qu'il soit une maison ou une voiture, bien sûr, de laver régulièrement les housses de canapé, bien sûr, les rideaux, les tapis. Bref, c'est assez intéressant de voir une illustration concrète de ça. On n'en avait jamais entendu parler. Deuxième article qui évoque, qui explique les résultats du congrès de la Société de pneumologie. Ce sont les pneumologues de France qui se sont réunis. Alors il y a déjà un certain temps, fin janvier, et dans ce rassemblement de spécialistes, eh bien il y a une présentation qui était parmi les plus attendues. C'était celle du docteur Didier Debieuvre de l'hôpital Émile Muller à Mulhouse. Il est le coordinateur d'une étude épidémiologique sur le cancer du poumon. Et il livre ses résultats tous les 10 ans. Il y a deux tendances inquiétantes qui ressortent de l'analyse des données de cette recherche. Les cancers du poumon progressent chez les femmes et chez les non-fumeurs. Alors, en 2000, les non-fumeurs et les fumeurs très occasionnels représentaient 7% des cas de cancer pulmonaire. Aujourd'hui, ça a augmenté, c'est presque 13%. Les raisons de cette augmentation sont multiples, nous dit-on. Les facteurs génétiques, mais aussi environnementaux, avec l'exposition à la pollution atmosphérique ou chimique dans le cadre du travail. Et la grande majorité des cas de cancer du poumon concerne encore des fumeurs. La part des femmes diagnostiquées est aussi en augmentation. C'était 16% en 2000, c'est 34%, c'est plus du double en 2020. Les cancers du poumon sont difficiles à soigner, bien sûr, parce que le diagnostic tombe souvent alors que la maladie est déjà avancée. La survie dans les 5 années suivant le diagnostic d'un cancer bronchopulmonaire a été améliorée, hein, ce diagnostic, mais c'est pas le cas pour d'autres formes de cancer du poumon qui s'appelle le cancer à petites cellules, qui est une comment dire, une spécificité du cancer assez particulière et qui justement montre que là, c'est assez difficile d'avoir une survie après un diagnostic. Alors s'ils sont pris en charge assez tôt, les cancers du poumon peuvent être soignés, mais dès que les métastases apparaissent, la tâche se complique et la survie diminue drastiquement. Mais donc du coup, on apprend dans cette étude que les cancers du poumon deviennent plus fréquents chez les femmes et chez les non-fumeurs, et ça devient une illustration concrète d'une tendance que l'on avait estimée depuis un certain temps. Enfin, troisième article concerne la surveillance du taux de nicotine dans l'air. Alors, vapoter, on considère que c'est un grand pas vers l'arrêt de la cigarette et vers le sevrage de son composant le plus addictif, qui est la nicotine. Hein, cette substance, elle est bien sûr connue pour augmenter le risque de troubles cardiovasculaires et respiratoires. Et tout comme la cigarette, eh bien, les émanations de son équivalent électronique viennent charger l'air ambiant en nicotine. Il ne faut quand même pas se leurrer, une cigarette électronique, ce n'est pas si génial que ça. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle dans cette émission. Il y a plusieurs articles qui confirment cela. Mais il y a une odeur moins désagréable, on va dire avec les cigarettes électroniques, et mais quand même le taux de nicotine qui est présent peut s'avérer nocif, notamment pour les non-fumeurs, et sa concentration est certainement plus élevée dans l'air, puisque ces cigarettes qui semblent d'apparence plus saines, elles prolifèrent et que les non-fumeurs s'en soucient désormais peu, c'est-à-dire qu'on est moins troublé quelque part par la présence à côté d'un vapoteur que de quelqu'un qui fume une vraie cigarette entre guillemets. Alors, la question, c'est de savoir comment on peut mesurer ce taux de nicotine en temps réel, alors que les laboratoires ont beaucoup de mal à réaliser ce genre de collecte avec du matériel spécialisé. Et bien, pour régler ce souci, il y a des capteurs de nicotine portables qui sont en cours de développement. C'est ce qu'on a appris il y a quelques semaines. Jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas vraiment pratiques parce que ça nécessite la présence de sueur ou de lumière pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir identifier le taux de nicotine. Et bien, il y a une équipe de chercheurs issus de plusieurs laboratoires universitaires internationaux qui semblent avoir réglé ce souci en mettant donc au point un capteur dénué de batterie ou alors qui va se coller sur la peau pour pouvoir mesurer le taux de nicotine ambiant en temps réel. Et donc ce capteur, il est constitué d'un composant qui s'appelle le dioxyde de vanadium. Cette substance, elle est capable de modifier sa conductivité selon la concentration de nicotine qui est absorbée. Et donc le capteur, il va amplifier ce signal, il va le transmettre vers une application que l'on trouvera par exemple sur un smartphone, et il sera donc possible de pouvoir surveiller le taux de nicotine dans l'air. L'équipe de chercheurs qui a publié ces expérimentations, l'ont fait au sein de l'American Chemical Society. En fait, il y a des travaux autour de la chimie des applications au profit de la santé et de l'environnement. Et donc, c'est quelque chose d'assez nouveau qui va permettre justement d'avoir une meilleure information sur le taux de nicotine dans l'air ambiant. Et ça concerne aussi bien les fumeurs que les non-fumeurs. C'est quelque chose d'assez récent. Donc voilà, trois informations autour du tabac au sens large, avec des informations assez récentes. Cette émission, elle existe déjà depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et il est vrai qu'on a très très peu évoqué d'articles scientifiques sur justement le tabac, la nicotine. Et donc là, on a trois informations qui se sont un petit peu succédées c'était essentiellement courant février, fin janvier, courant février. J'avais pas eu le temps de l'évoquer avec vous avant. Je l'évoque aujourd'hui parce que voilà, ça nous donne là encore des indications assez intéressantes. Bien évidemment, faut pas se leurrer, le tabac, qu'il soit la cigarette, qu'elle soit électronique ou non, n'est pas si raisonnable que ça. Bien évidemment, je ne vous apprends rien. Allez, on écoute encore un titre sur l'antenne de Graphite et on continue bien sûr à feuilleter l'actualité scientifique. C'était Helm Salih sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. On va continuer quand même toujours avec la médecine, avec trois informations peut-être un petit peu plus réjouissantes, on va dire, par rapport à ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant. Alors, on va parler de télémédecine avec, bien sûr, les déserts médicaux qui ne sont pas que des mirages. On considère, d'après l'Observatoire de la Mutualité française, qu'il y a 5 millions jusqu'à 7 à souffrir de difficultés d'accès à des professionnels de santé. Alors les chiffres varient fortement hein, d'une source à l'autre, hein, mais il n'en résulte pas moins que la problématique concerne un trop grand nombre de personnes. Dans l'Hexagone, comme dans le reste du monde, c'est une situation à laquelle entend remédier une jeune entreprise qui est basée à Nice, qui s'appelle Bodio, avec des solutions de ce qu'on appelle la télésanté. Alors, le fondateur de cette entreprise, Patrice Coutard, était responsable de la performance de l'équipe nationale de football des Émirats Arabes Unis pendant une quinzaine d'années. Et de là est née l'idée, dit-il, de pouvoir donner la possibilité, non plus aux seuls sportifs, mais à l'ensemble de la population, de surveiller leur état de santé à titre préventif. Alors, l'entreprise, elle a développé des dispositifs qui permettent d'établir un bilan de santé en 6 minutes et en totale autonomie à partir de 26 paramètres analysés, le poids, la tension artérielle, l'oxygénation du sang. Eh bien, le patient aura accès à des conseils en prévention pour maintenir sa forme ou alors il obtiendra un rendez-vous avec un spécialiste en mode téléconsultation en cas de problème. Alors, les deux stations d'automesure disposent des mêmes fonctionnalités mais diffèrent sur leurs usages. Alors, il y en a un qui s'appelle l'iPod, qui est une cabine fermée pour un check-up. C'est en libre service dans les espaces ouverts et dans des lieux de passage, par exemple un hall de gare ou un centre commercial. Et puis le deuxième, c'est le Health Lounge, qui est une station ouverte plutôt destinée à des espaces privés et adaptable à tout type de pratiques de santé grâce à son encombrement limité. Et donc, par exemple, ça peut être dans une maison de retraite. Les deux dispositifs, en tout cas, bénéficient, dit Patrice Coutard, d'un design le plus rassurant possible et d'une conformité avec la haute autorité de santé française qui garantit la sécurité des données. Et il y a également un espèce de rideau acoustique, ce qui va permettre de protéger la confidentialité des conversations également. Nous dit-on, alors avec ce dispositif, nous n'avons aucunement vocation à remplacer les médecins, mais au contraire de soulager les professionnels de santé en leur faisant gagner du temps, c'est ce qu'explique Patrice Coutard. Alors, il y a des critiques qui existent sur d'éventuels accords pour privilégier certains professionnels de santé. Eh bien, Patrice Coutard explique que la volonté est de ne pas capitaliser sur un réseau en particulier, mais plutôt de nouer des accords avec des leaders de la télémédecine, par exemple Doctolib en France. Alors, il y a eu des expérimentations qui ont été menées à Dubaï. Les stations sont en cours de déploiement en Arabie Saoudite et au Canada. Et donc, en France, il y a un programme pilote qui va être entrepris avec le Centre Hospitalier Universitaire de Nice. L'entreprise travaille en parallèle sur des algorithmes pour mieux personnaliser les dispositifs de prévention, voire pour prédire l'apparition de certains problèmes de santé. Donc la télémédecine fait un véritable bond dans le futur avec donc cette solution, ces deux solutions qui ont été développées par la société Bodio basée à Nice. Deuxième sujet médical, mais un petit peu plus, donc, comme je vous le disais, rassurant, ce sont ces lunettes, avec des lunettes qui vont détecter des obstacles par vibration, et ça sera très utile pour les non-voyants. Naviguer, c'est l'une des tâches les plus difficiles pour les personnes malvoyantes, bien évidemment. Il y a différentes recherches qui ont tenté d'apporter une aide grâce à la technologie, mais rien n'a encore réussi à supplanter la fameuse canne blanche. Et il y a un nouvel appareil qui a été conçu par des chercheurs de l'Université technique de Munich qui pourrait apparemment peut-être changer la donne. Il y a une communication assez récente sur cette invention qui est composée de deux éléments. Alors le premier, c'est une paire de lunettes imprimées en 3D. Et comme les systèmes de suivi des mouvements des casques de réalité virtuelle, eh bien ces lunettes utilisent des caméras pour enregistrer une image stéréoscopique de l'environnement afin d'essayer de construire une carte en 3D. Et les chercheurs ont utilisé une caméra spécifique qui a l'avantage de capturer les infrarouges, ce qui permet donc au système de pouvoir fonctionner la nuit. nuit. Les lunettes, elles sont connectées à une manche vibrante. Et donc, il y a un système de petits actionneurs au nombre 25 qui permettent à cette branche de signaler la présence d'un obstacle en indiquant à la personne qui a ses lunettes eh bien, la localisation et la distance. C'est-à-dire que le porteur de lunettes peut ainsi naviguer sans avoir les mains encombrées. Les systèmes à deux modes de fonctionnement, en intérieur avec une portée de détection maximale de 3 mètres et en extérieur avec une portée minimale de 2 mètres pour détecter les obstacles au loin. Et donc l'appareil peut fonctionner en complément de la canne, bien évidemment. Et donc les volontaires qui ont testé le système ont réussi à naviguer correctement presque dans 99% des cas, avec un seul des moteurs qui vibre au niveau de la branche. Et ça a été assez intéressant, les résultats ont été assez prometteurs, si bien que les chercheurs comptent continuer à améliorer leur invention et espèrent notamment intégrer la reconnaissance d'objets afin de générer des chemins pour aider la navigation dans les grands espaces ouverts. Voilà. Ça permet donc à ces non-voyants ou malvoyants de pouvoir détecter des obstacles par vibration grâce à ces lunettes. La technologie est quand même parfois aussi assez formidable. Enfin, troisième information, toujours au niveau médecine et au niveau technologie, c'est un rapport de l'armée américaine qui a été publié l'année dernière qui faisait état de plus de 2000 malaises dus à l'hyperthermie. L'hyperthermie, donc, c'est l'insolation. Et près d'un quart étaient donc des insolations, entre autres, ou alors il y a aussi des coups de chaleur qui peuvent être issus d'un effort assez important. Cela concernait en fait surtout les jeunes recrues ou les personnes qui étaient inexpérimentées au sein de l'armée américaine. Eh bien, des chercheurs du MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts, tentent de résoudre ce problème grâce à une montre connectée. Cet appareil est relié à un brassard en mode Bluetooth, donc en mode sans fil. Ce brassard qui mesure la fréquence cardiaque. Et à partir de cette fréquence cardiaque, eh bien, il y a un algorithme qui va estimer la température corporelle en continu afin de détecter lorsqu'une personne risque de faire un malaise. Et ce risque est alors affiché simplement sur l'écran sous la forme d'une icône verte, jaune ou rouge, hein, bien sûr, selon la dangerosité de l'état. Et bien sûr, quand c'est rouge, eh bien, ça signifie que celui qui a la montre doit immédiatement faire une pause, bien évidemment. Alors, l'algorithme utilisé a été développé par le gouvernement américain en 2013. Il a été intégré dans différents équipements. Toutefois, c'est la première fois que ce dispositif est utilisé dans un appareil aussi petit qu'une montre connectée. Les chercheurs ont testé 170 prototypes sur le terrain, nous dit-on, et ils ont été accueillis d'une façon générale de façon assez favorable. Leur modèle actuel est calibré pour les nouvelles recrues qui n'ont pas encore l'habitude de l'entraînement militaire et donc les chercheurs comptent ajouter un réglage afin que chacun puisse ajuster les températures limites en fonction de ses propres capacités physiques. Et afin de réduire les coûts de production et de limiter le poids, eh bien les chercheurs ont utilisé des équipements grand public pour un prix de revient à moins de $500 et ils espèrent donc pouvoir le proposer aux organisations humanitaires qui signalent également de nombreux malaises dus à l'hyperthermie. Donc voilà, une montre collectée qui va nous prévenir des insolations, des coups de chaleur éventuels. C'est assez intéressant, cette technologie. Et c'est intéressant de voir aussi que c'est l'armée qui avait développé ça de façon assez efficace. On écoute Lizzy Strata sur l'antenne de Graphite et on continue après à écouter l'actualité scientifique dans l'émission Biotine. Vous êtes sur Graphite et vous êtes bien.
I'm not ready for that. the stranger has made me the fish's aquarium. And I'm not ready for that. Or did you have to bring the whole family to the bed? I don't like it. And that concern only turns the knife in the wound. And they're staring at me like I'm full of cancer. I breathe in, I breathe out, I breathe in.
Oh, je me suis fait piéger par la fin de Lazy Strata avec le titre s'y sort sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour parler de l'actualité scientifique sur graphite.net, sur internet et le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Je me faisais piéger parce qu'en fait j'avais cet article que je n'avais pas prévu aujourd'hui, mais comme on a parlé des montres connectées en médecine, eh bien j'ai retrouvé cet article qui donne un autre exemple de montre connectée. C'est la montre connectée Kawatch Glucose qui est mise en point par une start-up parisienne qui s'appelle PK Vitality, et ça mesure en continu le taux de glucose. Et ça, c'est intéressant. En fait, Min Li, qui est le directeur général de PK Vitality, explique qu'il y a 460 millions de diabétiques dans le monde, dont 100 millions doivent surveiller leur glycémie attentivement pour ajuster leur dose d'insuline. Et la maladie, elle est malheureusement en forte progression avec l'augmentation de l'obésité, de la sédentarité et de l'allongement de l'espérance de vie. Certains diabétiques doivent se piquer le doigt plus de 10 fois par jour lorsque leur diabète est instable. C'est ce que explique justement Min Li. Eh bien, depuis plusieurs années, il y a des fabricants qui ont développé ce qu'on appelle des MGC, des moniteurs de glycémie en continu. C'est des genres de patchs qu'on colle sur la peau, mais en fait, on constate un genre d'insatisfaction par rapport à ces dispositifs, parce que le patch peut faire mal lors de l'insertion. L'adhésif, il est censé tenir 10 à 14 jours, mais en fait, ça se décolle, ce qui oblige à le remplacer plus souvent. Ça engendre donc des frais non remboursés ou une espèce de bricolé pour pouvoir le faire tenir quelques jours supplémentaires. C'est pas vraiment esthétique. Et puis, le patch, c'est un marqueur de la maladie que l'on est obligé un peu d'exposer, sauf à changer ses habitudes vestimentaires. Et puis, évidemment, tous ces dispositifs ont un coût. C'est ce qu'explique donc Min Li. Alors, il y a donc une montre connectée qui existe et qui résout tous ces problèmes, d'après lui. Le dispositif, c'est en fait constitué de deux parties. Il y a un patch qui est doté de micro-pointes quasi invisibles et indolores qui se fixent au poignet, et une montre connectée qui va recouvrir cela et qui capte les informations. Et de cette façon, le patch est protégé, reste bien en place. Et puis, comme toute l'électronique est déportée dans la montre et non dans le patch lui-même, eh bien le patch coûte beaucoup moins cher et ça occasionne moins de déchets également. Alors, comme toute montre connectée, eh bien celle-ci, elle donne l'heure et elle mesure donc les calories, l'activité physique, le rythme cardiaque. Autant d'éléments qui ont une incidence sur le taux de glucose, mais nous avons volontairement limité les fonctions aux plus utiles. Le produit, s'il doit pouvoir s'adresser à tous les patients diabétiques, doit aussi pouvoir être facilement utilisé par un public plus âgé que les utilisateurs traditionnels de montres connectées, un public peu habitué aux nouvelles technologies. Alors, ça a l'air d'être assez simple. Ça s'appelle donc la K-Watch Glucose. Ça permet d'assurer un suivi beaucoup plus fin de la glycémie, et cela va aider donc le patient au jour le jour à comprendre comment son corps réagit à l'alimentation, à l'activité physique. À un niveau de glycémie donné, le patient va pouvoir prendre une dose d'insuline adéquate lorsqu'il voit que son taux de glycémie augmente très rapidement. Avant, il avait juste une photo lui permettant d'apprécier la tendance et donc il ne pouvait pas l'ajuster de façon fine. Et donc la montre peut être connecté à une application smartphone et les données sont conservées également de manière confidentielle. À terme, les données pourront être partagées avec le médecin qui suit le patient pour lui permettre de donner des conseils d'hygiène de vie ou sur le traitement à suivre. Et donc, si le patient donne son accord, eh bien, les données de façon anonyme pourront également être utilisées à des fins de recherche scientifique pour améliorer la compréhension du diabète. C'est ce qu'évoque donc Minli, le responsable de cette start-up parisienne. Cette start-up a déjà levé 15 millions d'euros, mais la montre connectée a encore de nombreuses étapes à franchir pour arriver sur le marché, parce que ce n'est pas encore le cas. Nous venons de lancer le recrutement de notre premier essai clinique, hein, c'est ce qu'explique le responsable. Et une fois les résultats validés, il restera à obtenir la certification européenne. Tout ça, ça peut prendre quand même plusieurs mois, voire un an. Alors, ça fait maintenant 2 ans que cette start-up PK Vitality est bénéficiaire d'un programme qui permet justement d'avoir un consortium qui permet d'aider justement les innovations dans ce domaine-là. Et du coup, il y a un accompagnement, notamment avec l'équipe d'AssoSystem, qui permet justement de pouvoir apporter une amélioration dans ces prototypes techniques. Mais donc, du coup, voilà, une montre connectée qui permet de suivre son diabète en temps réel, qui sera normalement, apparemment, commercialisée assez rapidement. On suivra ça. Mais je trouvais cet article assez intéressant par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, avec la montre connectée qui prévient des insolations. Ok, ça reste quand même de façon assez anecdotique entre guillemets, mais tandis qu'une montre connectée qui permet de suivre son diabète en temps réel, ça par contre évidemment, ça peut avoir des applications beaucoup plus intéressantes, bien sûr. Voilà, c'était tout au niveau médecine dans cette émission aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs articles hein, que nous allons essayer d'évoquer. J'ai encore l'impression, je vois l'heure qui tourne, j'ai encore l'impression qu'on ne va pas pouvoir réussir à tout entendre, mais ce n'est pas grave. Alors, déjà, on parle, et on le sait très bien, hein, tout un autre sujet, de ce qu'on appelle le 7e continent. Hein. C'est ce continent composé uniquement de déchets plastiques. Alors, la surface, on l'estime à environ 1 600 000 kilomètres carrés. Il se trouve dans l'océan Pacifique, mais la pollution des mers n'est pas uniquement liée aux bouteilles et aux sacs que l'on rejette dans la nature, parce qu'il y a également les filets de pêche qui en font partie. On estime le poids à 640 000 tonnes par an. C'est quand même assez extraordinaire, ces filets de pêche qui polluent également. Ils sont abandonnés par les bateaux, ça pollue bien sûr la mer. Ils sont aussi responsables de la mort de millions de poissons, mais aussi de phoques, de tortues qui sont prises au piège dans leurs liens. Eh bien, il y a l'entreprise Samsung qui a voulu faire un petit coup de communication, mais assez efficace, qui a annoncé, cette entreprise, qu'elle avait commencé à utiliser du plastique recyclé qui était issu spécifiquement de ces filets de pêche qui étaient abandonnés, et pour pouvoir créer des nouveaux smartphones qui seront donc les premiers à profiter de ce matériau durable. Mais le fabricant promet également de l'intégrer dans tous ses prochains produits, dit-il. Et Samsung a donc mis en place une plateforme de développement durable qui s'appelle Galaxy for the Planet, et Samsung a établi un premier ensemble d'objectifs à atteindre d'ici 2025, donc c'est quand même assez proche, pour pouvoir diminuer l'empreinte environnementale et réduire l'épuisement des ressources. Et donc du coup, l'une des pistes évoquées dans ce programme, c'est l'utilisation des filets de pêche qui sont abandonnés pour pouvoir fabriquer des nouveaux smartphones Galaxy. C'est un bon coup de pub, bien sûr. C'est assez intelligent, finalement, ils ont bien eu raison. Et donc, du coup, on va voir un petit peu ce que vont faire les concurrents. Mais ce qui est intéressant dans cette information, c'est qu'on n'avait pas notamment estimé la part importante au niveau de la pollution plastique des filets de pêche. 640 000 tonnes par an, c'est quand même assez extraordinaire. On ne se rend même pas compte de ce que cela peut engendrer. Enfin, on a une idée très très vague de la quantité qu'il peut y avoir. Mais voilà, c'est assez intéressant de pouvoir utiliser et recycler, bien évidemment, tout cela. C'est l'avenir, c'est le développement durable, bien évidemment. Allez, on écoute Godzillionaire sur l'antenne de Graphite. Et on se retrouve juste après pour terminer cette émission avec, là encore, d'autres actualités scientifiques.
Looking for a home, a place.
Smoke, c'était Godzillionaire sur l'antenne de Graphite. On parlait de développement durable. Eh bien, assez régulièrement dans cette émission, on a encore des illustrations assez dramatiques du réchauffement climatique. Un récif de corail, c'est bien plus simple. C'est bien plus qu'un simple assemblage de coraux. C'est un écosystème à lui tout seul, un écosystème marin complexe et l'un des écosystèmes les plus riches en biodiversité. Et donc, dans les milieux autorisés, il se murmure que les récifs coralliens offrent nourriture, refuge et même protection à pas moins d'un quart de la vie marine. Plus de 4000 espèces de poissons trouvent refuge dans les récifs coralliens et ils constituent de fait une source non négligeable de revenus et de nourriture pour de nombreuses personnes, un demi-milliard selon les estimations. Alors, il existe des coraux dans toutes les eaux et à toutes les profondeurs, mais les récifs coralliens les plus importants du monde se trouvent à moins d'une vingtaine de mètres de profondeur dans les eaux tropicales du côté de l'Australie, hein, avec la fameuse grande barrière de corail de 2000 km de long, du côté de la Nouvelle-Calédonie également. Malheureusement, les coraux s'épanouissent dans une plage de température assez spécifique, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux variations du climat. Ainsi, le réchauffement climatique et qui est assez général et qui était anthropique, donc créé par l'homme. Et non seulement la hausse de la température des océans, mais aussi la multiplication, l'intensification des vagues de chaleur marine également, et bien les récifs coralliens sont en danger. De plus en plus d'épisodes de blanchiment sont rapportés. Il y a même aussi des épisodes de mort de ces coraux qui sont rapportés. Et en 2018, le GIEC alertait, hein, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui alertait déjà: si notre Terre devait se réchauffer de seulement 1,5 degré par rapport aux moyennes pré-industrielles, ce qui correspond à peu près au meilleur des cas des engagements des accords de Paris sur le climat, donc on est dans un scénario plutôt optimiste, on va dire, eh bien, même si on est dans ce scénario optimiste, entre 70 et 90% des récifs coralliens pourraient disparaître. C'est quand même assez important et faramineux. Aujourd'hui, il y a des chercheurs de l'université de Leeds au Royaume-Uni qui rendent une conclusion encore plus tranchée. pour eux, si on conserve ce 1,5 degré de réchauffement, eh bien, la quasi-totalité des coraux auront à faire face à des vagues de chaleur trop fréquentes pour qu'ils puissent se rétablir. Et donc, du coup, si on est dans ce scénario plutôt optimiste de réchauffement climatique, eh bien, on considère que les récifs coralliens ne survivront pas. À partir de données historiques, d'images satellites, de projections climatiques, les chercheurs montrent plus exactement qu'au cours de ces dernières décennies, 84% des coraux tropicaux ont pu avoir suffisamment de temps entre deux vagues de chaleur pour se rétablir d'épisodes de blanchiment. Eh bien, ils étaient 84% à pouvoir supporter. Ils ne seront plus que 0,2%. Et les scientifiques sont parvenus à identifier les seuls refuges thermiques qui pourraient subsister du côté de la Polynésie et du triangle de corail, hein, une petite région du Pacifique dans laquelle baignent la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines et les îles Salomon, alors uniquement dans cette zone-là. Et grâce à un taux de réchauffement moindre et des épisodes de remontée vers la surface d'eau plus froide, eh bien, ça pourrait résister, mais uniquement dans cet endroit-là. Les chercheurs appellent à mettre en œuvre des opérations de protection de ces refuges coralliens, des actions visant à éliminer les autres facteurs de stress comme la pêche, le tourisme, la pollution de l'eau devraient être mises en place. Évidemment, ça ne se mettra sûrement pas en place ou de façon aussi importante qu'il devrait et aussi soudaine qu'il faudrait le faire. Et des actions qui favorisent aussi la résistance, la récupération, la migration des coraux. Mais les scientifiques soulignent que ces opérations ne peuvent être envisagées que sur le court terme, car avec un réchauffement de 2 degrés, ils prévoient déjà que plus aucun des refuges de coraux ne pourra subsister. Donc c'est une information assez alarmante. De quoi confirmer une fois de plus qu'il est urgent de limiter nos émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Et donc, on est vraiment dans un exemple précis de question de vie ou de mort, en fait, en clair. Là, ça devient totalement flagrant avec ces récifs coralliens qui ne pourront pas survivre à un réchauffement climatique de 1,5 degré. Je rappelle que 1,5 degré, c'est les accords de Paris. Et tout le monde s'accorde pour dire, enfin, presque tout le monde s'accorde pour dire qu'on ne les tiendra jamais, ces accords. Donc, ça devient vraiment très, très inquiétant. Dernière information concernant toujours ce réchauffement climatique, eh bien, c'est une illustration avec le Groenland. La calotte du Groenland a perdu 4 000 milliards de tonnes de glace en 20 ans. C'est une illustration, là encore, de ce réchauffement climatique. C'est l'équivalent d'un volume suffisant pour recouvrir les États-Unis d'un demi-mètre d'eau, par exemple. C'est assez comme ça, ça évoque très bien. On prend toute la surface des États-Unis, on fait un demi-mètre d'eau dessus, et tout ça, ça représente les 4 000 milliards, je vais y arriver, de tonnes de glace qui ont été perdues, fondues par la calotte du Groenland. Les glaces de mer ont également reculé de 13% au cours des 10 dernières années. C'est encore une illustration de ce réchauffement climatique. En fait, le réchauffement climatique qui existe hein, depuis la nuit des temps, ce qui est là flagrant, c'est l'accélération de ce réchauffement. C'est totalement hors de contrôle, il ne faut pas se leurrer. C'est très souvent dans cette émission qu'on a des illustrations concrètes. C'est même pas des simulations, là, c'est vraiment une observation qui a été faite. Et donc, du coup, ça confirme là encore une situation qui est véritablement inquiétante. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, bien évidemment. Mais voilà, très souvent dans cette émission, assez régulièrement, on parle de ce réchauffement climatique et de la situation catastrophique vers laquelle nous allons être blessés et souriants à partir du moment qu'on arrive quand même à avoir du Wi-Fi. C'est quand même l'essentiel, je ne sais pas. Je trouve que ce genre de sujets sont très peu mis en avant d'un point de vue politique, notamment, par exemple, hein, sur des sujets qu'on évoque sans plus, en fait. Et là encore, il faut bien évidemment avoir une espèce de coopération, une coordination internationale sur ces sujets-là, sinon on ne s'en sortira pas, bien évidemment. Voilà, bon, c'est un petit peu anxiogène, hein, je suis désolé pour cette émission, mais bon, c'est aussi ça, hein, l'actualité scientifique, il y a des moments qui sont plutôt réjouissants, prometteurs, et puis il y a d'autres informations qui sont un petit peu plus anxiogènes, bien sûr, mais qui concernent notre monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons une part importante de responsabilité. Alors si on peut agir, faisons-le. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Bio Biotine sur l'antenne de Graphite. Alors si je dis pas de bêtises, je vais vérifier, mais je pense que la semaine prochaine, on va s'amuser un peu, on va se détendre, ça va nous faire du bien, parce qu'on fera une émission spéciale animaux, et comme ça on va bien rire, ça va être sympa, parce que les animaux sont aussi totalement fascinants, et des fois ils nous apprennent des choses assez intéressantes sur nous, bien évidemment, donc spécial animaux, samedi prochain entre 12h et 13h, sur l'antenne de Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet, et n'oubliez pas bien sûr la rediffusion de cette émission le mardi entre 10h et 11h. Je vous souhaite de passer une bonne journée et restez fidèles à Graphite, bien sûr, à samedi prochain. Bonne journée à tous, au revoir.